On va faire réagir Aurélien Taché, car je le crains, Aurélien Taché, vous êtes député La République En Marche du Val-d'Oise. Donc, à ce titre, lorsqu'on évoque les bisbilles dans le gouvernement, forcément, on se tourne vers vous.
Non, mais vous prêtez beaucoup de malice à Gérard Collomb ou à certains ministres. Non, je crois que chacun, défend, que le ministre de l'écologie, parfois, défende des positions qui peuvent entrer en contradiction avec celui de l'agriculture. Moi, ça me paraît bien naturel. Si je veux dire, on va pas s'étonner de cela. Et qu'après, on ait un débat au moment où l'emploi repart pour voir où est-ce qu'il faut mieux cibler les aides et si c'est effectivement, les entreprises qu'il faut peut-être un peu moins accompagner si elles arrivent à mieux se développer ou si, enfin voilà, tout ça me semble très naturel. Après, il y a un premier ministre, un président de la République. Moi, je ne doute pas qu'une fois que les arbitrages seront pris et une fois que les décisions seront prises, tout le monde mettra en œuvre la politique comme c'est le cas depuis un an. Et on est très loin de ce qu'on a pu connaître par le passé.
Mais justement, est-ce que tout ça n'est pas
les gouvernements des couacs sont derrière nous, je vous l'assure.
Et tout ça, finalement, est un peu cosmétique. Hein, c'est ce que j'évoquais. Et le patron, et à la fin, il y en a un. Quoi. C'est Macron. Et c'est un petit peu tout le monde sur le doigt de la couture. Donc pourquoi évoquer publiquement ces dissensions? Pourquoi finalement fonctionner comme avant?
Je sais pas. Je pense plutôt qu'il est naturel que sur des sujets comme ceux que vous venez d'évoquer, il y a un peu de débat entre les différents acteurs du gouvernement, qu'on regarde quelles sont les solutions qui soient prises. Mais la grosse différence par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'effectivement il y a un patron et qu'à la fin il décide et qu'à la fin on met en œuvre ce qu'il a décidé.
Justement, puisque l'on va parler de la question des migrants, de l'évacuation des campements de migrants, nous accueillons Isabelle Coutant. Bonjour, vous êtes sociologue, vous êtes chargée de recherche à l'IRIS, vous êtes l'auteur du livre « Les migrants en bas de chez soi » et vous allez nous expliquer dans quelques instants, Isabelle Coutant, ce que vous avez observé, ce que vous restituez dans ce livre. N'y a-t-il pas, Aurélien Taché, une sorte de jeu entre deux positions sur la question des migrants, une position humanitaire que vous incarnez, une position humaniste, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous la qualifieriez, et une position qui, elle, serait beaucoup plus hostile, une position de fermeture, avec en ligne de mire, par exemple, la situation italienne, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on y pensait en se disant que le gouvernement voulait faire preuve de fermeté parce qu'il avait peur, sinon que d'autres le dépassent sur sa droite.
Moi, je vous ai dit que, à mon avis, la meilleure manière de faire qu'on ne se fasse pas dépasser sur notre droite, c'est d'avoir la construction d'une politique européenne. Et c'est donc de ne pas laisser un pays, plus qu'un autre, faire face seul à l'arrivée des réfugiés. Après, ce que vous dites est point de quelque chose, c'est-à-dire que la responsabilité aujourd'hui, c'est de dire que la migration est un fait du temps et que si on... De toute façon, elle sera là. Donc à nous d'en faire une chance et une force. Cependant, c'est vrai que les Français, il y a quand même un gros travail de conviction à faire pour que ça se soit entendu. Moi, je crois qu'en réalité, c'est les expériences de terrain qui fonctionnent le mieux. Et je suis certain qu'Isabelle Coutant en parlera. Mais moi, ce que j'ai pu constater par le passé, c'est qu'il y avait toujours beaucoup d'inquiétudes avant qu'un centre d'hébergement s'installe, avant que, par exemple, quand on disait à un maire d'une commune, voilà, on va mettre 50, 60 migrants chez vous dans un centre. Il y avait énormément d'inquiétude de la part des Français. Puis quand le centre est construit, quand les choses se mettent en place, peu à peu, finalement, les choses changent. L'humanité et la solidarité gagnent à chaque fois. Donc il faut rester optimiste.
Optimiste, je ne sais pas si Isabelle Coutant va l'être. En tout cas, vous avez, dans votre livre « Les migrants en bas de chez soi », évoquez votre expérience. Racontez-nous comment vous en êtes venu à observer ce qui se déroulait dans ce lycée désaffecté qui a été occupé par des migrants à Paris, place des Fêtes. Racontez-nous ce qui s'est déroulé là-bas, Isabelle Coutant.
À l'été 2015, un peu au plein cœur de la crise, ce qu'on appelait la crise migratoire, un ancien lycée désaffecté a été occupé par une centaine de migrants accompagnés par des militants et des riverains d'un autre arrondissement. Donc ils étaient une centaine au départ, essentiellement des hommes originaires de la Corne de l'Afrique et d'Afghanistan. Et le projet un peu des militants qui étaient là, c'était de faire de ce lieu une sorte de maison des réfugiés qui serait un lieu de premier accueil, et ils dénonçaient justement la défaillance des politiques d'accueil. Donc ce lieu était censé fonctionner en autogestion. La ville de Paris a toléré cette occupation dans un premier temps. Donc il y avait des soutiens qui venaient donner des cours de français, des permanences infirmières, des visites de Paris, voilà, tout ça se mettait en place. Donc au cours de l'été, je pense que moi j'étais absente, j'étais en vacances, et j'ai appris ça comme beaucoup d'habitants par les réseaux sociaux, par la presse. Je crois que ça a relativement fonctionné au cours de l'été. Sauf que c'est devenu le lieu d'arrivée des migrants sur Paris. Et donc il y avait 50 à 100 personnes qui arrivaient par semaine, et au moment de la rentrée scolaire, ils étaient à peu près 400, et ce bâtiment désaffecté faisait face au collège du quartier. Les enfants les voyaient de leur fenêtre, de leur salle de classe, de leur cours de récréation. Donc moi, j'avais mon fils qui rentrait en sixième à ce moment-là. Et donc ma première réaction a été quand même plutôt de la colère et de l'inquiétude. Colère pas envers les migrants, mais colère envers les pouvoirs publics. Qui tolérerait finalement une telle occupation à partir du moment où c'était... Alors, le quartier de la Place des Fêtes, ça fait partie des quartiers défavorisés de la capitale, on va dire. Quartier populaire, quartier immigré, quartier pluriconfessionnel. Il y a 25% d'immigrés dans ce quartier. Et puis, le secteur en question, en plus, venait d'être passé en contrat de ville, donc avec les problématiques associées. Donc, comme un certain nombre d'habitants, j'ai ressenti cette situation comme une forme de mépris. Pour le quartier, puis en se disant aussi, c'est déjà des quartiers qui ont une fonction d'accueil, qui sont à nouveau sollicités pour accueillir les nouveaux arrivants. Et puis, je me suis dit assez rapidement que... donc, au départ, j'ai vécu cette situation comme habitante. Et puis, assez rapidement, je me suis dit que c'était intéressant de l'étudier comme sociologue. Moi, je travaille sur les quartiers populaires en Île-de-France, donc sur les questions d'immigration aussi, de fait, parce que ces quartiers sont aussi beaucoup des quartiers immigrés. Donc j'estimais avoir les outils pour analyser ce qui se passait là. Puis je trouvais
justement,
que c'était un
qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre ou de constater, Isabelle Coutan?
Ben, je me suis intéressée aux effets de cette situation sur le quartier. Je me suis demandé, au début on ne savait pas comment ça allait se terminer. Ça a suscité des tensions, l'amicale des locataires dans l'immeuble voisin a explosé, il y avait les pour et puis il y avait les contre, il y avait des conflits dans les allées, il y avait des conflits au café. Et voilà,
vous ne cachez rien de cela dans ce livre, c'est-à-dire que vous expliquez en quoi la situation était problématique, dans le sens d'une problématisation, les choses n'allaient pas de soi.
Non, et puis effectivement, il y avait... C'était autogéré, donc il y avait des bagarres, il y avait des trafics, et donc les gens qui vivaient à côté étaient témoins de tout ça. Et il y a eu aussi une instrumentalisation de la situation par le Front National. Donc il y avait aussi des inquiétudes d'un certain nombre d'habitants, que ça fasse monter l'extrême droite. Donc du coup, ce qui s'est passé, il y a eu finalement une mobilisation quand même de voisins solidaires qui s'est créée à la fois en soutien des occupants, enfin en se disant qu'il faut accompagner ces nouveaux voisins dans leurs revendications, mais aussi avec l'idée qu'il fallait préserver le quartier. Et éviter justement que les conflits s'exacerbent et éviter que la situation soit politiquement récupérée. Et pour faire écho à ce que disait Aurélien Taché tout à l'heure, une des femmes, parce que ce sont beaucoup des femmes qui sont dans cet engagement du quotidien, dans la suite des engagements de parents d'élèves, une des femmes qui a dit lors d'une réunion avec le maire d'arrondissement, faisons en sorte que cette situation soit une chance pour notre quartier. Faisons la preuve, effectivement, à la fois agacés du fait que ce soit encore un quartier de ce type-là qui soit sollicité, et en même temps disant qu'on est peut-être les plus à même de pouvoir accueillir une telle situation. Et faisons en sorte d'en sortir grandi et que ça se passe bien. C'était un peu ça le pari du
Et alors, est-ce que ce pari a été tenu rétrospectivement? Je ne sais pas d'ailleurs si vous habitez toujours dans ce quartier, Isabelle Coutan, mais y a-t-il eu une solution apportée? Est-ce que cette mobilisation des voisins a permis d'apporter une coexistence pacifique entre ce lieu d'accueil et le voisinage?
En tout cas, il n'y a pas eu de drame. L'occupation au total a duré 3 mois, donc c'est passé de 150 au début à 800 sur la fin et à 1400 le jour de l'évacuation. Donc à l'échelle du quartier, c'était une situation qui a vraiment marqué les esprits. Il n'y a pas eu de drame à l'intérieur parce que ça faisait partie des inquiétudes. Et puis il y a eu une évacuation qui s'est passée pacifiquement, calmement, une trentaine de bus, qui a duré 4 heures. Et puis les occupants ont tous été relogés. Il n'y a pas eu non plus d'expulsion immédiate. Donc pour les occupants, ça s'est relativement terminé au moins à court terme. Et pour le voisinage, finalement, dans les suites de cette occupation, à la fois ça a donné lieu à une petite augmentation du vote pour le Front National quand même sur le bureau de vote immédiatement relié à ce micro-quartier. Le Parti Socialiste a été particulièrement sanctionné, avec aussi une montée du vote pour les écologistes et pour l'extrême-gauche, sur les conséquences lors des élections régionales. Et puis en même temps, ça a aussi donné lieu sur la scène locale à tout un ensemble de remobilisations. Le quartier, en fait, ça a fait quartier, cet événement.
Et lorsque l'on évoque ce type de situation, celle que vous décrivez fort bien, Isabelle Coutan, encore une fois, dans sa complexité, puisque vous ne cherchez pas à dire que tout se passait bien, pas du tout, vous évoquez les craintes des riverains, leurs angoisses, la manière dont vous-même, les autres, avaient leurs enfants donc qui devaient aller à l'école en face de ce lieu qui était devenu un lieu d'accueil de migrants. C'est une situation qui s'est reproduite, qui se reproduit en ce moment même à Paris. On va écouter d'ailleurs la maire de Paris, Anne Hidalgo, à ce sujet.
Si une évacuation de ce campement se fait sans que les personnes qui sont ici ne sachent où elles vont aller, si elles vont se retrouver dans des centres de rétention, si elles vont se retrouver dans des situations administratives encore plus complexes, bien évidemment que ça posera d'énormes problèmes.
Une intervention du 20 avril dernier d'Anne Hidalgo, qui évoquait donc un campement de migrants cette fois-ci, Porte de la Chapelle, Aurélien Taché, on ne comprend pas bien ce qui se passe. La mairie de Paris dit que le gouvernement ne remplit pas son rôle et, de manière étonnante, le gouvernement dit l'inverse.
Alors ça aussi, c'est un classique hein, pour rebondir sur les échanges qu'on vient d'avoir précédemment. Hein, mais c'est pas tellement la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces 2300 personnes ? Il est temps maintenant, et moi je suis très heureux que le ministre de l'Intérieur l'ait annoncé, qu'on puisse leur proposer des solutions. C'est très frappant ce qu'on vient d'entendre sur le lycée Jean Jaurès, parce que évidemment que tout n'est pas simple, et finalement vous avez dit on fait quartier, oui, et c'est des histoires éminemment humaines, et plus on laisse les gens livrés à eux-mêmes, et plus vous avez à la fois de la solidarité qui se met en place, mais vous avez aussi possiblement de la violence, de la précarité. Et là, sur le camp du Millénaire et à Paris, on voit bien qu'il est temps maintenant que l'État agisse. Donc les places d'hébergement nécessaires ont visiblement été préparées, les gens vont être mis à l'abri, et moi c'est ça que je trouve extrêmement important, donc j'ai pas le sentiment que l'État prenne pas ses responsabilités. Par contre, c'est vrai qu'il est temps d'héberger ces personnes et d'accompagner au mieux tous ces gens qui sont quand même dans un profond dénuement.
Mais alors pourquoi la maire de Paris dit-elle cela, selon vous ?
Elle fait de la politique,
vous voilà, aussi, mais... Non mais en dehors de ça...
Mais parce que il est vrai que de toute façon on ne peut pas non plus avoir une mise à l'abri sans savoir du tout ce qu'on va ensuite proposer aux gens. Donc le gouvernement a rappelé qu'il y aurait évidemment on regarderait la situation des personnes, que certaines relèvent de l'asile, qu'elles pourraient y aller, que peut-être certaines en relèveraient moins, donc il y aurait un hébergement, mais qu'après il pourrait pas y avoir une insertion dans l'asile. Donc je crois que c'est à ça que la maire de Paris
fait référence. Ce qui veut dire qu'il y aura une expulsion.
Ce qui veut dire qu'en tout cas on ne pourra pas avoir une protection, et que donc oui, il peut y avoir possiblement en tout cas des gens à qui on va dire que non, ils devraient quitter la France. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on va attraper les gens et les mettre dans des centres de rétention à la sortie d'évacuation. Moi, ça, j'y crois pas du tout. C'est pas quelque chose qui se fait. C'est plus compliqué que ça, les procédures. Et donc, il ne faut pas non plus agiter les peurs là-dessus, parce que c'est le meilleur moyen que les gens s'inquiètent et refusent des places d'hébergement.
Isabelle Coutant, qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous êtes confrontée, donc, c'est une situation finalement assez analogue à celle que vous avez vécue dans votre voisinage. Bon, elle ne se déroule plus place des Fêtes, mais ailleurs, toujours dans un quartier populaire de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez lorsque la mairie, le gouvernement se renvoie la balle ? Vous, c'était en 2015, donc un autre gouvernement, mais la situation demeure identique dans la répartition des rôles.
Ben effectivement, nous, on était face à ça aussi. Les institutions se renvoyaient là-bas. La mairie d'arrondissement renvoyait sur la mairie de Paris renvoyait sur l'État. Et donc, en fait, comme les institutions se renvoyaient là-bas, il se passait rien. Et donc, il a fallu que les voisins, en fait, fassent la politique d'accueil. Ça a fonctionné un temps, ça a produit des choses intéressantes. Il fallait que ça s'arrête. Hein. C'est-à-dire que pendant 2 mois, les gens impliqués ont mis entre parenthèses quand même leur vie personnelle et parfois professionnelle. Et donc à la fois, ça fait un grand vide quand les migrants sont partis. Et en même temps, de toute façon, ça pouvait pas continuer. Un soulagement aussi, quoi. Mais après, il y a eu un centre d'hébergement officiel, mais géré par Emmaüs Solidarité. Donc du coup, c'est pas le quartier qui porte... de la même manière l'événement.
Mais avez-vous l'impression que la mairie, mairie d'arrondissement, mairie de la ville, gouvernement cherchait à se défausser ? Avez-vous eu au contraire une impression que vos interlocuteurs étaient des interlocuteurs sérieux, responsables ? Votre expérience à ce sujet ?
C'était compliqué parce qu'il y avait des litiges entre les institutions et le collectif qui avait initié l'occupation, qui revendiquait aussi une forme d'autogestion. Il y avait des tensions très fortes en fait entre les institutions et ce collectif initial. Donc ça a fait aussi que c'était pas facile pour les institutions d'intervenir. Donc c'est pour ça que les habitants à un moment se sont dit bon, il faut que nous on fasse quelque chose parce qu'on est coincé dans cette situation autant que les migrants en fait. Il y avait ce sentiment.
Oui, parce que je connais un peu comment, enfin j'avais suivi un peu ce dossier à l'époque. Et c'est important ce que vous venez de dire parce que il y a la solidarité des citoyens, des habitants, des vrais riverains, et ça c'est peut-être ce qui a été le plus exemplaire et essentiel dans cette expérience. Et puis vous avez aussi il y a certes un peu de politique parfois de la part des institutions, mais aussi de la part de certains collectifs qui revendiquaient pendant ces occupations parfois même le fait que l'État n'intervienne pas et qu'on ne crée pas un centre d'hébergement et qu'on n'accompagne pas, qu'on reste sur quelque chose d'autogéré pour justement éviter qu'on ait aussi à un moment à regarder qui relève de l'asile ou non. Donc tout ça est effectivement assez complexe, mais ce que je crois qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, on voit bien que même quand 1500 personnes se retrouvent dans un lycée désaffecté au milieu d'un quartier populaire de Paris, les Français s'organisent, font face et qu'au final il n'y a pas de drame et qu'au final on arrive à trouver des solutions. Donc par contre, l'État doit prendre sa part. part. La mairie doit prendre, les institutions doivent accompagner cela et ne pas laisser la situation se détériorer. Je pense que c'est ce qui va se passer pour le campement dont on parle, qui est actuellement au canal de l'Ourcq.
L'intérêt de votre expérience, Isabelle Coutant, c'est que vous êtes donc à la fois une habitante du quartier lorsque vous allez voir cette situation. Vous êtes également une sociologue et vous analysez les choses un peu comme une anthropologue, c'est-à-dire que vous décrivez concrètement ce que vous voyez, comment les choses se passent, les échanges se passent, ces migrants, que veulent-ils? Comment se passe leur arrivée en France? Qu'est-ce qu'ils vous racontent?
Alors moi, quand je suis rentrée dans ce lieu, parce qu'une partie effectivement de l'enquête, c'est à l'intérieur du bâtiment occupé, et donc j'avais un peu l'idée au départ de représenter les délégués des migrants, puisqu'il y avait des responsables par chambre et par nationalité, donc dans le cadre de mon enquête, ça m'intéressait de voir les liens qu'ils avaient avec les habitants. Et puis finalement, l'enquête, elle s'est pas déroulée tout à fait comme je voulais, parce que je suis rentrée auprès des Afghans Pashtuns et finalement, je suis restée auprès d'eux, mais c'est parce que je me sentais un peu, comment dire, j'étais accueillie, mais du coup, ça impliquait aussi. J'ai compris que ce lieu était aussi organisé en fonction des nationalités, voire parfois des ethnies chez les Afghans, et que j'étais une ressource moi aussi. En tant que soutien, on est des ressources, et que je pouvais froisser, j'étais accueillie à dîner, j'étais accueillie pour le thé. Donc j'étais un petit peu captive, on va dire, de cette communauté. Donc c'est surtout avec eux que j'ai échangé, et certains d'entre eux arrivaient... arriver juste quoi, et directement des petites villes ou des villages du pays Pashtun, donc avec aussi une grande surprise sur ce qu'ils découvraient, sur
c'est-à-dire
Paris.
Qu'est-ce qui les étonnait le plus?
Ce qui les étonnait, aussi, c'est que moi, en tant que femme, j'arrive comme ça dans ce lieu et que je leur pose des questions. Et qu'est-ce que c'était qu'être une femme ici? Ce sont des jeunes hommes qui ont grandi sous les talibans, dont les femmes portent la burqa, voilà, qui vivent dans des familles élargies, avec aussi des appartenances tribales. Donc c'est un mode de société très différent. Et effectivement, quand ils arrivent, il y a pas de connaissance de la société d'arrivée. Donc là, ça rejoint aussi des choses du rapport de réintégration. Il y a tout un travail de rencontre mutuelle et d'explication et d'accueil à faire. Et là, pour le coup, je pense que tous les citoyens ont un rôle à jouer dans cette dimension de l'accueil.
Comment voyait-il la France et où voulait-il aller? Était-il dans leur projet de rester en France? Voulait-il aller en Angleterre?
Ils ne savaient pas en arrivant. Ils arrivaient en Europe. Et la plupart d'entre eux ne savaient pas forcément... ceux qui parlaient anglais avaient pour projet d'aller en Angleterre. Quand ils ont vu qu'à Calais, ce n'était pas possible de passer, certains ont décidé finalement de rester à Paris. Il y a des liens qui ont commencé à se tisser, notamment avec les étudiants. Les jeunes étudiants en région parisienne ont joué un rôle très important depuis 2015 dans l'accueil aussi de ces populations. Donc des liens qui ont commencé à se tisser, voilà, mais ils ne savaient pas. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont des amis en Allemagne, des amis en Belgique. Ils s'informent sur la situation ici ou là. Et puis... ils ne savent pas forcément au départ, ce n'est pas forcément la France.
Aurélien Taché.
Non, mais on avait même des gens parfois à Calais ou à Paris, à Calais, on a vu des gens exilés arriver qui ne savaient même pas où ils étaient, finalement. Les passeurs leur disent essayez plutôt d'aller vers là-bas. Et ça, pas forcément exactement, parce qu'il y a quand même beaucoup de traumatismes sur le chemin qui font que les gens arrivent, ils sont perdus, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment que ce soit au niveau européen, que quelque chose soit construit, parce que sinon, tout ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un a de la famille en Angleterre, en Allemagne, quand il maîtrise plutôt une langue qu'une autre, comment aujourd'hui on peut arriver à prendre en compte ces situations? Et après, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, et je voulais revenir une seconde là-dessus, c'est que on dit souvent, c'est la solidarité envers les réfugiés, c'est un peu un truc de bobo ou autre. Ben non, on voit bien que dans un quartier très populaire comme celui du 19e arrondissement, les choses ont réussi à s'organiser. Donc il faut pouvoir donner des moyens pour qu'il y ait les investissements publics suffisants pour que finalement ça n'impacte pas trop la vie des habitants. Mais moi, je suis quand même assez frappé de voir que ce qu'on appelle les villes-mondes, finalement, elles se mettent déjà en place dans ces quartiers-là et que c'est quelque chose qui est encourageant et qu'il faut savoir accompagner.
Isabelle Coutant, qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on dit quartier populaire, accueil? Parce que vous avez travaillé aussi sur la gentrification, sur ces thèmes-là. Et quel lien faites-vous justement entre la manière dont la population des migrants a été accueillie et la physionomie du quartier?
Alors, les habitants qui se sont créés en groupes solidaires sont quand même les catégories du quartier qui appartiennent aux professions intellectuelles et artistiques pour l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solidarités qui sont plus populaires. Du coup, ce sont des solidarités plus individuelles. Il y a une femme qui est venue préparer à manger pendant 2 mois, une femme d'origine africaine, ancienne coiffeuse. Et elle faisait ça pour les enfants du collège, pour les enfants des Français, disait-elle.
Bénévolement?
Oui. Donc en lien aussi avec son engagement religieux, quoi. Mais c'était, voilà, il y avait des, il y a
son engagement religieux
par rapport à l'Église. Elle était là aussi pour voilà. De cette manière-là.
Alors parce que Aurélien Taché, on comprend bien, vous êtes député La République En Marche, on comprend de bien Sergi, qu'effectivement il faut une sorte de règlement à l'échelle européenne. Ouais. On le voit, on en parle. Mais le fait qu'il n'y ait pas de lieu d'accueil, que ces migrants par exemple aient été installés dans un lycée, ça n'est pas l'Europe, c'est le gouvernement de la France. Alors à l'époque, ça n'était pas votre majorité, c'était les socialistes, même si vous avez été socialiste naguère. Il y a la mairie de Paris. Bref, ce sont ces responsables qui peuvent décider ou non d'installer des centres d'accueil qui soient des centres d'accueil dignes. Et c'est ceux-là qui font défaut. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un campement de 2300 migrants à Paris et il en existe d'autres ailleurs en France. Est-ce que là, ça n'est pas une manière d'instrumentaliser l'Europe pour dire c'est à l'Europe d'agir ?
Non, sur la question du premier accueil, vous avez raison, ça relève de la responsabilité de la France. Il faut qu'on ait des places d'hébergement pour pouvoir accompagner les gens. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a quand même un lien très direct. On a plusieurs dizaines de milliers de places d'hébergement qui sont en Île-de-France, qui sont en France et qui permettent de proposer des solutions. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs milliers de personnes prises en charge dans le cadre de maraudes, comme on dit, puisque c'est ainsi que ça s'appelle quand des associations ou l'État viennent dans les camps et proposent des places d'hébergement. Mais certaines personnes refusent d'y aller. Pourquoi elles refusent d'y aller ? Parce qu'elles relève de ce fameux règlement Dublin. Et donc elles se disent, si j'y vais, on risque de me demander de repartir en Italie ou en Allemagne. Et c'est vrai qu'encore une fois, on ne peut pas dire à tout le monde, bah non, vous ne repartirez pas en Italie ou en Allemagne, on va tous vous prendre en France, parce que sinon ça veut dire qu'on n'applique plus le règlement Dublin et ça veut dire qu'on est le seul pays à ne pas le faire. Alors moi je suis le premier à pointer les contradictions de ce règlement, mais il faut avancer sur une solution européenne là-dessus. Ça ne peut pas être la France qui dit seule du jour au lendemain, moi je n'applique plus le règlement Dublin. Mais du coup vous voyez que la question de l'hébergement, elle est intimement liée encore une fois à cette question européenne. Les gens ont peur de devoir être transféré dans un autre pays. Et donc, il faut qu'on avance vraiment sur ce sujet au niveau européen si on veut mettre fin aussi à ce qu'on voit dans nos rues aujourd'hui.
Que sont-ils devenus, ces migrants, aujourd'hui, Isabelle Coutant ? Est-ce que vous avez conservé la trace de certains d'entre eux ? Est-ce que vous savez, aujourd'hui, où ils sont, ce qu'ils font ?
Donc, ils ont tous... Il y avait aussi des sans-papiers à l'époque, mais ils ont tous été, dans un premier temps, dans des centres d'hébergement d'urgence. Moi, j'ai gardé la trace... Des Afghans avec lesquels j'étais liée. Ils sont restés longtemps, d'ailleurs j'étais surprise, presque 2 ans pour certains dans des centres d'hébergement d'urgence à Nanterre. Aujourd'hui, ils sont un peu plus loin, évidemment, plus loin de Paris, dans l'accès après, ils ont obtenu l'autorisation de rester sur le territoire, dans des logements sociaux, ils sont en formation, restauration, électricité, ils parlent français. Voilà, enfin, c'est compliqué hein, en même temps cette question d'insertion. Mais moi, ce qui m'émeut le plus, c'est de voir comment ils parlent français maintenant.
Ce qui est important, vous êtes sociologue et la question de l'intégration est une problématique en sociologie. Et justement, le regard que vous pouvez porter à la fois sur leur situation antérieure et leur situation actuelle est important puisqu'il permet de faire la part des fantasmes, ou en tout cas de voir au travers d'une grille la vôtre, ce qu'il en est véritablement.
Après, je pense que moi, ceux avec lesquels j'ai gardé le plus contact, c'est ceux avec lesquels j'ai pu communiquer, donc c'est ceux qui parlaient anglais. Donc, c'est pas ceux qui ont le moins de ressources pour trouver leur place. Voilà. Après, ceux qui étaient analphabètes, je pense que c'est plus, pour le moment, un peu du travail au noir dans le bâtiment, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est complexe, et puis ça prend un peu de temps, mais déjà, moi, je suis très, très impressionnée par la motivation et la rapidité avec laquelle ils ont appris notre langue. Donc, ça, c'est quand même un signe encourageant.
Est-ce que c'est lié, en quelque sorte, à la nature de cette population ? Donc, là, en l'occurrence, des Afghans pachtounes. Est-ce que vous avez vu d'autres migrants ? Est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, de voir les trajectoires de ces individus ?
C'est sur les 1300, moi, j'ai pas pu forcément. Mais je sais que Le Monde a suivi tout un groupe qui était à Vichy. Et c'est plus des Soudanais, là. Voilà, il y a quand même moyen de voir un peu les suivis. Et puis, j'ai pas pu reconstituer toutes les trajectoires.
Non, reconstituer les trajectoires, et évidemment, non, mais voir la manière dont ces individus aujourd'hui peuvent ou non se représenter la France, peuvent ou non trouver des filières. C'est également aussi le sens du rapport que vous avez remis, Aurélien Taché.
Oui, parce qu'on a trop tendance, et c'est normal, parce que ce qui nous inquiète, c'est d'abord de voir les gens dans le dénuement, dehors. Soit ça nous inquiète parce qu'on se dit, ça fait peur, soit ça nous inquiète parce qu'on se dit, mais c'est terrible pour ces gens, parfois un peu les deux. Hein, donc c'est normal, on pense à la première urgence. Mais moi, ce que j'avais essayé de dire, et c'est pour ça que j'avais souhaité travailler sur ce rapport, et que j'étais vraiment content que le gouvernement me confie cette mission, c'est de dire qu'il faut aussi penser la suite. Parce que ce qui inquiète les Français, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après ces gens? On les a mis à l'abri, on les a hébergés, mais est-ce qu'ils apprennent le français? Est-ce qu'ils trouvent un travail? Est-ce qu'ils trouvent leur place? Et il ne faut pas croire que parce qu'on a pris en charge les gens dans la rue et qu'on a répondu à une nécessité de première urgence, l'histoire s'arrête là. Aujourd'hui, on n'a pas assez accès à des cours de français et pas assez rapidement, je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on met du temps à pouvoir être autorisé à travailler. Et pourtant, moi j'ai vu plein d'entreprises qui me disaient, on a fini par prendre des réfugiés, ça a été une forme d'engagement citoyen parce qu'il a fallu se débrouiller tout seul pour leur trouver un appartement, pour les accompagner, ouvrir un compte à la banque, le compteur électrique dans leur logement, parce que quand vous arrivez du Darfour, c'est tout ça, c'est des choses qui sont pas évidentes du tout. Et une vraie politique d'intégration, ça doit être ça. Ça doit être construire ensuite ce chemin et donner les outils aux gens de trouver leur place en France. Et si on arrive à faire ça, je pense que là aussi, sur la question de l'évolution de l'opinion des Français, on avancera considérablement.
Ça, c'est au niveau des savoirs, au niveau des valeurs, puisque c'est ce que vous évoquiez, ce que vous évoquez aussi dans votre livre, Isabelle Coutant, lorsqu'on évoque cette population, donc qui est une population qui vient d'une société très différente de la nôtre. Vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'ils voient qu'une femme en France n'a pas la même place que dans leur société, donc là en l'occurrence il s'agit d'Afghans, est-ce que l'on peut faire évoluer ces valeurs? Est-ce que vous les avez vues évoluer?
En tout cas, ce qui est, chacun reste peut-être ce qu'il est, en tout cas dans un premier temps, mais en tout cas, il n'y a aucun problème pour échanger, pour se respecter, pour se rencontrer. Enfin, ça a été très simple et j'ai été surprise aussi de voir à quel point on est quand même les mêmes. Enfin, en plus, voilà, je suis une femme face à des hommes, j'ai une culture très différente, ils viennent d'une société très différente et la relation a été extrêmement simple. Donc, ça veut, voilà, après, il reste. Pour ce qui les concerne, très religieux, mais ça n'empêche pas, enfin voilà, et que moi je peux leur dire que non, moi personnellement je crois pas en Dieu, mais ça pose pas de problème en fait.
Il n'y a qu'une valeur qui compte, celle de la tolérance finalement.
Voilà, il y a un humanisme mutuel. Enfin,
il y a l'humanisme, il y a la politique. Bruno Julliard, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, chargé de la culture, était l'invité de France Info. Et alors, il est revenu sur cette polémique qu'il oppose à Gérard Collomb. Il a expliqué que le ministre de l'Intérieur était, selon lui, je le cite, d'une parfaite mauvaise foi. Cela fait de nombreuses semaines, dit donc Bruno Julliard, qui travaille pour la mairie de Paris, de nombreux mois que nous demandons au ministre de l'Intérieur et au gouvernement une mise à l'abri des migrants. Est-ce qu'il ment, Aurélien Taché ?
Non, mais les choses sont plus complexes que ça. La mairie de Paris peut aussi enclencher des procédures demandant à ce que finalement les gens soient pris en charge. Elle refuse de le faire, considérant que c'est à l'État, parce qu'elle imagine que si elle fait ça, elle va aussi légitimer le fait qu'elle a une responsabilité. Donc vous voyez, on est un peu dans le jeu quand même d'acteurs et d'institutions qu'on évoquait tout à l'heure. Certainement pas dénué d'arrière-pensée politique aussi non plus du côté de la mairie de Paris. Enfin, il faut quand même être un petit peu...
Voilà, quelles arrière-pensées?
Non, mais on voit bien quand même qu'il y a des visions qui s'opposent un petit peu, qu'il y a aussi la question de dire qui est responsable, qui paie finalement. Hein. Donc la répartition, normalement, elle est les mineurs et les personnes vulnérables sont plutôt pris en charge par les villes et les départements, donc c'est Paris qui est responsable. Les hommes sont plutôt pris en charge par l'État. Bon, voilà, c'est l'histoire des compétences administratives françaises qui font ça, et donc du coup, on se retrouve parfois dans ce type de posture. Et le plus important, c'est maintenant d'agir pour que les personnes qui sont, encore une fois, en train d'attendre sur le long du canal de l'Ourcq soient prises en charge.
Isabelle Coutant, la leçon que vous tirez de cette expérience que vous relatez dans votre ouvrage « Les migrants en bas de chez soi » paru au Seuil.
Ben je pense que ce qui est intéressant à observer, c'est de voir que cet événement a contribué à augmenter les liens entre différents acteurs engagés localement. Ça a renforcé d'un certain point de vue le quartier et la cohésion du quartier, donc ça allait pas de soi, donc ça c'est intéressant à observer. Et puis en même temps, voilà, j'ai aussi une problématique sur laquelle j'ai pas insisté là. C'est quand même effectivement un quartier populaire, un quartier délaissé. Donc moi, ça m'a quand même posé question que ce soit quand même ces quartiers-là qui soient les premiers sollicités sur ce genre de situation. Ce projet de ce bâtiment désaffecté devait être transformé en médiathèque initialement. Donc pour le moment, on y revient, mais donc c'est un quartier qui avait aucun équipement.
Finalement. Il ne sera pas transformé en médiathèque.
Si, on y revient. Mais ça voulait dire qu'à un moment, les habitants ont eu le sentiment que ce projet a été abandonné. Donc ça veut dire que dans des quartiers qui ont déjà besoin d'être soutenus, qui ont déjà besoin d'équipement, parce que déjà ils assurent une fonction d'intégration de population immigrée, Il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration. La majorité d'enfants du collège sont issus de l'immigration. Voilà, il y avait moi, ce qui m'a aussi un peu perturbée, c'est ça. C'est qu'il faut, moi, mon idée, c'est qu'il faut aussi penser ensemble cette question des quartiers populaires et cette question des réfugiés. Parce que de fait, c'est beaucoup ces quartiers qui. Donc il faut soutenir encore plus ces quartiers aussi. C'est
merci.
Un peu ça ma conclusion.
Isabelle Coutant, Les migrants, bas de chez soi, c'est votre livre publié au Seuil. Merci Aurélien Taché. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche du Val d'Oise.